Voilà, on va vous parler maintenant d'un temps que les moins de 20 ans pourraient ne pas connaître s'il n'y avait pas la vidéo, les disques, les plateformes et puis aussi les associations qui font revivre cette décennie folle des années 80. Et j'accueille avec grand plaisir Eric Milk. Bonjour Eric.
Bonjour et merci d'invitation.
C'est un grand plaisir. Donc quand j'ai vu années 80, évidemment, ça m'a fait chaud au cœur. Au cœur des années 80, c'est le nom de votre association.
Oui, association qui a été créée il y a un peu plus de 4 ans maintenant, on va dire, donc un dixième de ce qui nous sépare des années 80.
Alors, au départ, faire revivre des années 80, bon, sur une université, c'est peut-être un peu atypique.
Donc, quelques mots en fait sur la création de l'association. Donc, on est un certain nombre de membres fondateurs, donc personnels de l'université, mais pas que, heureusement. Et en fait, c'était lors d'un apéritif, comme on est amis, on se reçoit. Et puis, au bout d'un moment, on met des clips vidéo donc sur les années 80. On commence à faire un peu de karaoké. J'avais des objets des années 80, donc je commence à les sortir, etc. Et on se dit, ben, c'est génial, faudrait faire ça un peu plus souvent. Et quelqu'un dit, ben, on pourrait peut-être même faire partager en fait ces moments à d'autres personnes et créer une association. Et donc, ça s'est fait lors d'un apéritif autour de verres sympathiques, on va dire. Et c'est ce qui a donné naissance à cette association. Donc, pour faire, c'est le slogan de l'association, pour soit revivre les années 80, ou si vous ne les avez pas vécues, découvrez et vivez ces années 80. Donc, ce n'est pas de la nostalgie, c'est vraiment partager un état d'esprit qui était, on pense, particulier dans ces années 80.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont des années de légende?
je pense que si on avait fait une émission de ce type il y a quelques années, on aurait pu parler aussi des années 70, des années 60. Voilà, chaque décennie, souvent, ce sont aussi parfois des années de légende. Avec une spécificité des années 80, je pense que c'est des années qui ont connu énormément d'évolution dans un temps réduit d'une décennie. Avant, lors d'une décennie, que ce soit les années 60, 70 ou 50, il y avait des évolutions, mais beaucoup moins que dans les années 80. Dans les années 80, on a eu des évolutions au niveau musical, et on le voit bien, au niveau, et tu l'as cité tout à l'heure, au niveau de la création des radios libres, il y a beaucoup plus de liberté. D'ailleurs, souvent, quand on fait des sondages lors de nos événements, qu'est-ce qui définit en un mot les années 80? Le mot qui revient le plus, c'est le mot liberté. Liberté au niveau donc des radios libres, liberté au niveau du style vestimentaire, au niveau du style des émissions télé, au niveau déjà de la télévision. On est passé de 3 chaînes à 6 chaînes dans les années 80, que ce soit au niveau pub, je veux dire, avec des pubs très avant-gardistes pour l'époque, aussi au niveau du style des émissions. Quand on voit le début des Inconnus, ou même Coluche ou d'autres choses, il y a un certain nombre de sketchs qui ne choquaient pas à cette époque parce que c'était vraiment vu comme du second degré et c'était l'esprit de liberté, on va dire, qui maintenant tomberait plus ou moins sous le coup de la loi.
Alors c'est vrai que l'humour a beaucoup changé. Enfin, c'est pas facile pour les humoristes actuellement. Ils doivent trouver un petit créneau. C'est assez complexe de pas tout de suite se faire taxer de ceci ou de cela. Il y a vraiment des réactions qui sont fortes, hein, parfois pour des gens qui font de l'humour et ils essayent quand même de faire rire les gens. C'est pas facile pour eux.
Tout à fait.
On peut peut-être se rappeler de quelques grands humoristes des années 80.
Bon, bien sûr, on a cité Coluche, il y a eu les Inconnus et bien d'autres dans ces années 80. Et c'était vraiment une décennie, souvent dit, où un peu tout était permis. En même temps, on pouvait dire ça sur les années 70, mais je pense que dans les années 80, il y a vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est le mot liberté. Surtout dans beaucoup de domaines. Par exemple, on va prendre la technologie qui a fortement évolué dans les années 70. Les progrès techniques nous permettaient de gagner du temps. C'était la liberté. Je suis venu avec quelques objets. Par exemple, les cassettes vidéo. Avec l'arrivée du Walkman, et je me souviens, j'avais 12-13 ans, on va dans un magasin acheter des piles. Et le magasin le vendeur qui me connaissait, c'était un petit magasin audiovisuel de quartier comme il n'en existe plus maintenant. J'étais avec ma maman, et il me dit, je vais te montrer quelque chose. regarde, il met donc le casque du Walkman dans les oreilles, il dit, regarde, mets ta cassette que tu viens d'acheter, tu vas te faire écouter ça et tu peux te balader avec.
C'est génial, le baladeur.
C'était génial. Mais oui, c'était vrai, le mot, voilà, Walkman. Baladeur, on se promenait, on pouvait emporter sa musique. Mmh. Après, les Walkman ont évolué, on a pu mettre la radio dessus aussi, c'était vraiment énormément de choses pour faire gagner du temps. Maintenant, sans être passéiste, parfois les progrès techniques nous font gagner du temps, ou parfois ça, on devient un peu trop addict, et le temps qu'on peut gagner, en fait, on le perd aussi.
Alors justement, ce moment du Walkman, c'était quand même encore un moment de liberté, bien qu'il y avait les casques sur les oreilles, les écouteurs, etc. Si on compare ça avec les téléphones portables maintenant, où tout le monde est un peu accro, etc., il y avait encore cette indépendance possible.
Oui, tout à fait. Tout à fait. On était. C'était pas véritablement un partage, c'était pour soi aussi. Bon, on peut dire qu'avec le téléphone portable, ça aussi, spécifiquement pour soi. Mais souvent, on le dit. Et j'ai une anecdote. Un de mes amis qui s'était présenté aux élections il y a une quinzaine d'années et qui avait 5000 followers sur Facebook. Il y a 15 ans, 5000, ça commençait, c'était même un peu plus de 15 ans, commençait à être pas mal. Présente aux élections, il fait un peu moins de 5%, donc ses frais de campagne ne sont pas pris en charge. Il lance un appel, et je crois qu'il y a 3 ou 4 personnes qui lui ont répondu. Il me dit, Eric, je comprends pas, j'ai 5000 personnes, etc. Je dis, mais tes 5000 amis sur Facebook, c'est 5000 personnes qui ont fait un clic. C'est pas 5000 amis.
Bien sûr.
Et en fait, et c'est souvent ça, le téléphone portable, c'est quelque chose de formidable, qui permet des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et en même temps, à chaque fois, il faut savoir l'utiliser. Et la technique ne remplacera jamais l'humain. Ça peut permettre de faire évoluer nos pratiques, mais ça ne remplace pas l'humain.
Alors c'est vrai qu'on pourrait faire une émission complète sur le téléphone portable actuel, ses usages et son avenir, parce que c'est énorme ce qui se passe, cette révolution. On peut dire qu'on est dans une révolution du téléphone, on peut même plus appeler ça ordinateur. Téléphone, on peut dire, comment on peut dire c'est quasiment à la fois un ordinateur, un écran, hein, tout ce qu'on veut, dans un format qu'on peut prendre plus ou moins grand. Peut-être aussi, on peut en parler comme appareil photo, appareil vidéo. Alors moi, je me souviens des années 80, pour faire des photos, c'était un peu galère, quoi.
Et d'ailleurs, quand j'ai créé l'association, j'ai essayé de retrouver des photos de moi ou d'amis des années 80. On s'est rendu compte que à cette époque, faire des photos, ça avait un coût, et donc on en faisait beaucoup moins qu'avant. Moi, j'ai ramené quelques objets, notamment un Polaroid, qui, quand on parle photo, c'était vraiment une grande révolution dans les années 80, de pouvoir avoir une photo, faire une photo et la voir tout de suite, sans aller chez le photographe, c'est le cas de dire, qu'il prenait notre véhicule, qu'il envoyait, on récupérait une semaine après. Et en même temps, c'était très très cher. Et donc, les moments qu'on allait immortaliser, on faisait bien attention au nombre de photos qu'on allait faire. Maintenant, on fait tellement de photos, et c'est vrai qu'on peut avoir 1000 photos sur son téléphone, on les regarde de temps en temps, que à cette époque, on en faisait beaucoup moins, on les imprimait, et le fait que ce soit un format papier, parfois on pouvait les ressortir un mois après, ou on recevait de la famille ou des amis, on les ressortait, le partage était plus grand que de montrer des photos sur son téléphone, même s'il faut vivre aussi avec son temps, et heureusement d'ailleurs.
Alors, on a parlé de la photo, on pourrait dire aussi qu'il y avait des photos dans des magazines, et les magazines des années 80, c'était quelque chose. Hein.
Oui, il y avait Podium 70-80, il y avait surtout un magazine qui était le magazine de référence dans les années 80 au niveau musical, qui était le pendant de l'émission musicale et qui a été lancé, c'était en novembre, donc 1984, c'était le magazine Top 50, et toutes les semaines, donc on l'achetait, et ce qui était important, c'était l'encart central, parce qu'il y avait le poster qu'on était content quand c'était le chanteur qu'on aimait bien ou le groupe qu'on aimait bien, de le placarder, on va dire, dans sa chambre. Et il y avait le classement des chanteurs de l'époque, et ça, c'était vraiment une grande nouveauté de cette époque.
Voilà, ce fameux hit parade qui faisait aussi la vente des disques en même temps. Hein. C'est-à-dire, il y avait de la promo derrière et les sociétés de disques qui ne se gênaient pas pour y aller, pour mettre en avant leurs poulains. On pourrait parler de quelques poulains de l'époque ?
Oh, il y a eu beaucoup de... Ce qui a aussi marqué les années 80 par rapport à d'autres, c'est l'émergence d'une scène française, notamment dans le sud, de la scène toulousaine, avec Jean-Pierre Madère, avec le groupe Gold et bien d'autres en fait. Et ça, c'était vraiment spécifique des années 80 où la chaîne, enfin où les chanteurs français, la scène française a véritablement pris sa place, quoi. Rita Mitsouko, Téléphone, c'est 70, c'est un peu 80, mais vraiment la chanson française encore plus pris sa part dans les années 80, en sachant qu'avec le développement des radios libres, ça a aussi été l'ouverture vers le monde anglo-saxon encore plus fort qu'avant, quoi.
Mmh. Puis moi j'ai connu, et toi aussi, les discothèques, forcément. Hein.
C'était pas très loin le Macumba ou les quatre cantons, les quatre culs, comme on disait quand j'étais étudiant. Et j'ai eu la chance d'y travailler un peu. Enfin, on faisait des piges à cette époque. Quelques semaines, j'ai plutôt animé des soirées privées aussi. Et c'était vraiment quand on sortait en discothèque, on se faisait beau, etc. Non pas que maintenant on est mal habillé en discothèque, pas du tout. Mais c'était un peu la fête même avant d'être dans la discothèque, quoi.
Et puis à l'époque, il y avait même des slow.
Tout
encore,
à fait. Hein? Et dans les événements qu'on peut organiser avec l'association, qu'on propose avec l'association, notamment inventer un concept événementiel qui s'appelle une boum au cœur des années 80, qui n'est pas une soirée, qui est véritablement un événement. En fait, c'est un voyage dans le temps avec une déco immersive, avec un show DJ, un karaoké, on va dire collectif, un quiz à blind test sur les années 80, et vraiment la déco, plusieurs centaines d'objets des années 80. On termine toujours cet événement par une série de trois slows.
Mmh. Alors, en discothèque, les slows, c'était quelque chose de très attendu. Il n'y avait pas à l'époque, comment ça s'appelle, les plateformes de rencontres et tout ça. Hein.
Non, tout à
Donc,
fait.
Donc, la discothèque, c'était quand même le lieu assez idéal pour connaître des personnes.
Et pour ça, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est quand on sortait en discothèque, on se faisait beau, comme on disait. Mmh. Une décennie avant, on se faisait beau pour aller au bal.
Ouais,
voilà.
Au bal,
La discothèque était venue de bal, on va dire, non mobile. C'était vraiment ça, en disant, ce jour, on fera peut-être la rencontre qui va tout changer, etc. Il y avait aussi ce qui s'est un peu développé, ce qu'on appelait quart d'heure américain. Là, c'était l'inverse, c'était les filles qui invitaient les garçons pour le slow.
Exact. Voilà, donc ces souvenirs-là, nous, on les a. Alors, pour les faire revivre au travers soit d'anciennes générations, soit à de nouvelles, c'est le projet au cœur des années 80 de votre association.
Tout à fait, et c'est pour ça que, outre les événements qu'on peut proposer avec nos partenaires, on intervient aussi, par exemple, dans des centres aérés, c'est-à-dire dans l'année dernière, il y a un centre aéré qui a souhaité avoir notre collection d'objets, enfin une partie, parce qu'on en a plusieurs centaines, et donc toute la semaine, le projet, on va dire, pédagogique du centre aéré, c'était de comprendre cette décennie des années 80 avec les objets, ce que ça représentait, etc. Et on peut aussi faire des expositions, par exemple dans le cadre du mois des personnels. Il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons, on a donc fait une grosse exposition avec des objets des années 80. Donc sur le campus Pont de Bois, on a aussi fait des conférences, on va dire plus des rencontres, discussions sur les années 80. Pas dans l'aspect nostalgique, on n'est jamais dans la nostalgie, dans l'aspect pourquoi les années 80, on en parle encore 40 ans après, que ce soit des personnes de mon âge qui n'ont plus 20 ans, ou même des personnes qui ont 20 ou 30 ans qui disent, moi je ne les ai pas véritablement connus, mais moi je me représentais les années 80 de telle manière et j'aurais bien aimé les connaître, j'aimerais les vivre un peu. Et ça, c'est vraiment l'esprit de notre association. On peut intervenir, comme je le disais, dans un centre aéré ou dans des mairies, ou parfois des entreprises qui souhaitent organiser un événement pour faire vivre cette décennie avec une ambiance particulière. Et dans nos soirées, il n'y a pas de remix comme c'est très à la mode à l'heure actuelle, même si c'est très bien aussi, mais on est vraiment sur les disques d'époque. Il peut y avoir des remix des disques d'époque, parce que dans les années 80, il y avait ce qu'on appelait les maxi 45 tours, les versions discothèque. La version radio, c'était 3 minutes, 3 minutes 15 pour l'antenne. Et la version discothèque, c'était plutôt 4 minutes 50, voire 5 minutes 30. Mmh. Voilà. C'est vraiment... Et puis, les objets, on va jouer en fait sur... Non pas l'aspect nostalgie, mais l'aspect émotion. Et souvent, en fait, dans les expositions qu'on peut organiser ou lors de nos événements, les personnes vont prendre donc un objet en disant « Moi, ça me rappelle tel et tel souvenir. » Et souvent, dans nos événements, on peut avoir la personne qui va venir avec ses enfants. Donc, on va avoir deux générations et des fois même deux générations et demie. Et parfois, il y a les enfants qui disent, bah, ça, c'était quel objet? Maman, tu peux me dire? Et la mère ou le père disent, bah, cet objet, là, je l'avais, ça servait à telle et telle chose. Ou parfois, même dans le cadre de fêtes d'école, on va intervenir avec des objets. Et les personnes qui sont non pas en maternelle, mais en primaire. Donc, on organise des jeux. Et souvent, les personnes en primaire connaissent ces objets des années 80. Alors que, techniquement, ils ont pas pu en entendre parler, quoi.
C'est Pépé Mamie.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que les Pépé Mamie sont toujours à la page par rapport à ces années-là? Est-ce qu'ils sont restés dans le rythme?
Ils sont encore un peu 70, bon, on le voyait bien avant la fermeture du Macumba. Et j'ai envie de dire, nous, dans notre association, on a des personnes, de 20, après, il n'y a pas de limite, quoi, voilà. Mmh. Et on est vraiment sur un peu plus notre cœur de cible, c'est, on va dire, les 35, 60 ans et plus, voilà, c'est ça. Mais on a aussi beaucoup de jeunes de plus en plus qui viennent, parce que au-delà, c'est pas une soirée, c'est vraiment un voyage dans le temps. Et ce type d'événement, en fait, on est les seuls à le proposer grâce à nos partenaires, parce que il y a personne qui va exposer plusieurs objets des années 80 dans des vitrines ou dans des pyramides, etc. Pyramides, on va dire, musicales et autres d'expositions. Et on va véritablement, comme je le disais, c'est un voyage dans le temps, c'est une immersion. Et ça, on est vraiment les seuls à proposer ça.
Alors, c'est vrai que dans notre esprit, on a toujours la facilité de considérer que ce qui était avant, c'était mieux, parce que peut-être on était plus jeune, donc on se dit que c'était le bon temps. Et puis, objectivement, est-ce que c'était une période plus heureuse? Parce qu'on a parlé de liberté, est-ce que liberté, ça va avec bonheur?
Je pense, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas nostalgique, parce que nostalgique, ça veut dire que c'était avant, c'était mieux. Mais souvent, je dis c'était différent. Il y a des choses qui n'existaient pas, qui existent maintenant, qui sont très bien, et inversement. Mais c'est vrai que la grande différence, c'est que c'était parfois, on pouvait dire que c'était plus facile de vivre dans les années 80. Même si on peut dire le chômage de masse s'est développé dans les années 80, véritablement. Il y a eu l'arrivée du sida. Mmh. Clairement, il faut dire que je me souviens de cette époque, ça nous a quand même touché.
C'était un choc.
Voilà. Ouais. Il y avait, maintenant, on parle beaucoup de racisme, etc. Le racisme dans les années 80, il était très très dur, que ce soit même parfois dans les universités ou entre syndicats étudiants.
Sans parler des entrées en boîte de nuit, hein, les entrées en discothèque.
Tout à fait. Bon. Donc c'est pas, je peux dire que c'était mieux. Bon, moi j'y suis parce qu'on va dire, j'avais pas mon âge actuel, mais c'était différent. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de la liberté était différente et on savait prendre du recul sur ce qui se passait et on se disait, je pense que on avait toujours un espoir en disant, ben, quoi qu'il nous arrive, ben, on va s'en sortir, on va faire quelque chose. Maintenant, c'est vrai que parfois on parle de climat anxiogène. Le climat était difficile dans les années 80, il n'était pas anxiogène. Maintenant, oui.
Alors, il était difficile, mais en gros, on avait quand même une vue sur ce qu'on pouvait faire dans la vie qu'on a beaucoup plus de difficultés à mettre en place maintenant. On ne sait pas trop l'avenir, de quoi il sera fait. Un métier, éventuellement ne pas le garder toute sa vie. Il faut s'habituer s'imaginer des transitions nécessaires.
Voilà. Et je pense aussi que ce qui définit aussi notre décennie actuelle, c'est un peu le zapping, que ce soit avec la télé. Des fois, on a un minimum, on a 25 chaînes, si mes souvenirs sont bons, ça doit être ça avec la TNT. Et il y a des soirs, on se dit, en parcourant les 25 chaînes, il n'y a rien qui va nous plaire. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait 3 chaînes, on trouver toujours quelque chose à regarder. Et donc, je pense que l'aspect zapping, on l'a, que ce soit au niveau télé, on l'a ici au niveau travail, où on dit aussi, c'est un choix. Je veux dire, par exemple, au niveau des étudiants, quelque chose qui se développe, qui n'existait pas avant, c'est quelqu'un qui va faire une alternance en 2 ans en master, par exemple. Avant, il y avait l'étudiant qui, au bout d'une année, allait changer l'entreprise. C'était l'étudiant qui, trouvait que l'émission qui lui était confiée convenait pas par rapport au diplôme. Et donc, c'était plutôt, quand je dis un choix, c'est-à-dire il subissait le fait de devoir changer l'entreprise pour que ça aille mieux dans la deuxième année. Maintenant, le nombre d'étudiants qui, au bout d'une année, disent « moi, je ferme mon alternance, ma deuxième année d'alternance dans une autre société », donc un choix qui est voulu et qui n'est pas subi, Avant, c'était 1 ou 2%. Et comme je le disais, c'était tous les étudiants qui subissaient ça. Maintenant, c'est un choix. Et ça, c'est nouveau. Alors que l'étudiant qui va faire son master en 2 années va signer au départ un contrat de 2 ans. Il va le faire en disant, si je change au bout d'une année, j'aurai 2 expériences dans 2 structures différentes. Et ça, c'est nouveau. Voilà. Ou comme ce que tu disais tout à l'heure, dans les années 80, quand on commençait dans une structure, on se disait, bah, dans 10-15 ans, je pourrais faire tel poste. Maintenant, quand un jeune va et est recruté dans une structure, rarement il va se projeter dans 10 ou 15 ans.
Oui, c'est vrai que bah, je ne dis pas que c'est forcément mal hein, qu'un jeune, au bout d'un an, il a testé une entreprise, ça ne lui convient plus, ou il n'a pas d'avancement, il change. Bon, c'est quand même maintenant un peu différent. Hein.
Tout à fait. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on disait, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est l'aspect zapping, c'est l'évolution de la société. Est-ce qu'il faut être acteur de son parcours
Et puis, il y a moins de, peut-être, hein, d'implication dans l'entreprise. Quand on travaille pour une entreprise, on fait valoriser maintenant son travail qu'avant, il y avait peut-être cette notion qu'on contribuait à l'esprit d'une entreprise. Maintenant, est-ce qu'il y a encore un esprit dans l'entreprise? Je ne sais pas.
Voilà. Je ne sais pas non plus, on va dire que c'était différent. Voilà, voilà. C'est ça.
Bon, voilà les évolutions de la société. Maintenant, on est aussi dans un moment où il y a des guerres qui se profilent. Enfin, on a cette impression d'instabilité, alors qu'à l'époque, la bombe atomique nous protégeait.
On va dire qu'à cette époque, et je suis un historien de formation, c'est vrai que moi je me souviens de 89 avec la chute du mur de Berlin. Pourquoi je me souviens? Bon, les images, voilà. Et concrètement, c'était hyper rapide. Et aussi, de par mes origines, ma mère était belge avant d'être naturalisée française et mon père était polonais. Il était venu avec la Seconde Guerre mondiale. Et donc, tant qu'il y avait le mur de Berlin, il était retourner en Pologne parce qu'il savait qu'il pouvait peut-être rentrer, mais revenir en France c'était plus compliqué.
C'est certain.
Voilà. D'ailleurs, on, à cette époque, on envoyait des colis alimentaires à la famille et souvent ils recevaient des colis qui étaient ouverts, contrôlés, voire même arrachés, enfin, mélangés, etc. Et c'est vrai qu'on se disait, ce que tu évoquais à l'heure actuelle, avec la bombe atomique, on se disait concrètement, ben, c'est un mal pour un bien et c'est un peu ce qui nous protège. Et c'est vrai que tous les repères à l'heure actuelle sont absolument plus les repères des années 80 et ça change parfois du matin par rapport au soir, quoi, clairement. Et c'est une situation qui peut être, qui peut apparaître et qui est instable d'ailleurs, et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, qui parfois peut être un peu anxiogène parce que se dire, mais qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui était inenvisageable dans les années 80, on se dit, c'est complexe maintenant.
Ouais, alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu des guerres, hein, de toute façon, dans le monde. Hein. Mais là, elle nous choque davantage parce qu'elle risque de se rapprocher de nous.
Elles se sont déjà rapprochées de nous avec le conflit qui est sur le sol européen.
Et oui.
Sur le continent européen, on va dire. Voilà.
Et puis avec ce que Trump annonce d'occupation des sols d'autres pays, ça va être encore une sacrée histoire.
Oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin de positif, on a besoin de revivre ces années, de cette folie des années 80, quel que soit notre âge.
En fait, c'est une façon de reprendre des forces.
Tout à fait, tout à fait.
Donc il y avait cette énergie, cette vitalité qu'on retrouve hein, dans la musique des années 80. Peut-être une forme de bienveillance aussi entre les gens, qui peut-être, là, je trouve les gens un peu tendus entre eux. Il y a beaucoup d'agressivité, surtout sur les réseaux sociaux.
Oui, tout à fait. Et c'est, il y avait un mot qui existe encore, heureusement d'ailleurs, c'est le mot solidarité. Moi, je me souviens d'avoir fait une des premières, j'étais encore étudiant, d'avoir fait une des premières collègues des Restos du Cœur. Et je me souviens, donc on avait emprunté un caddie dans un hypermarché, on avait fait X appartements, les blocs, et après on reprenait le métro pour déposer ça au centre, etc. C'était quelque chose de formidable. Heureusement, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent pour la solidarité, mais c'est vrai que de plus en plus, malheureusement, parfois, je dis bien, et c'est l'inverse à l'université, où l'université développe énormément de dispositifs de solidarité envers les étudiants pour leur offrir les meilleures conditions pour réaliser leurs projets de formation personnelle et leur projet professionnel. C'est un mot parfois qui devient un peu complexe, le mot solidarité.
Oui, et c'est vrai que des étudiants qui sont eux-mêmes fragilisés par leur statut, on va dire, d'une certaine manière. Certains ne sont pas riches et loin de là. Il y a beaucoup de pauvreté aussi chez les étudiants. Il n'y avait peut-être pas ça avant. Il y avait peut-être une sélection un peu différente des étudiants dans les années 80.
On est passé de, dans les années 80, on parlait de 80% d'une classe d'âge au niveau baccalauréat. Maintenant, on est plutôt à 96%. Oui. On assiste à une démocratisation, que ce soit au niveau catégorie donc sociale d'une part, ou même en termes de diplôme antérieur au niveau baccalauréat, ce qui est une bonne chose. Et en même temps, c'est vrai que on a un taux de boursiers qui est très important à l'Université de Lille. Et on joue véritablement notre rôle d'inclusion sociale et d'ascenseur social du territoire. Et l'Université a mis un grand nombre de dispositifs en place, que ce soit en termes d'aide alimentaire, que ce soit en termes de contrats étudiants, notamment avec la région proposée, ou que ce soit des dispositifs spécifiques comme le dispositif Libellule, etc., pour justement avoir une attention particulière aux étudiants qui souhaitent être accompagnés, justement, notamment ce que tu évoquais tout à l'heure avec Prisme, notamment sur la première année, même si Prisme c'est différent, mais la première année c'est quelque chose qui est très important. Et aussi, on l'a vu notamment pendant la période Covid, où il y avait un nombre d'étudiants conséquents qui avaient ce qu'on appelait des boulots étudiants, quoi. Mmh. Mais avec le Covid, du jour au lendemain, ces étudiants se retrouvaient sans rien. Et par exemple, le téléphone, ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure, qui est aussi parfois l'outil de travail des étudiants, un certain nombre d'étudiants, en fait, faisaient leurs devoirs ou autres avec leur téléphone, parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, ou même s'ils avaient un ordinateur, ils n'avaient pas de quoi dans leur résidence universitaire, il n'y avait pas le Wi-Fi, ils n'avaient pas de quoi acheter une carte. Et donc, l'université a mis en place, avec des partenaires, notamment sa fondation Université Lille, des dispositifs pour ce qu'on appelait les oubliés numériques.
Alors, c'est vrai qu'il y a plus de jeunes à l'université qu'il y a, qu'en 80, 90, bien sûr. En même temps, ces jeunes représentent toute la société maintenant, donc avec beaucoup d'écart entre les riches et les pauvres, puisque forcément, il y a l'ensemble qui est représenté. Donc, plus de difficultés aussi pour accompagner des étudiants qui sont en difficulté économique.
Et c'est pour ça que l'université, comme je l'évoquais il y a quelques instants, met en place une politique très volontariste, justement, pour permettre à chaque étudiant d'avoir les meilleures conditions, notamment matérielles, pour réussir ses études et réaliser son projet de formation, son projet professionnel et personnel.
Alors, dans les années 80, quand on faisait des études, souvent, on avait quasiment un emploi assuré après un petit moment d'adaptation, bien sûr, mais en gros, le diplôme, c'était quand même une entrée dans une vie active, dans une entreprise ou une administration. Maintenant, c'est peut-être plus compliqué que ça, non ?
C'est différent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait, comme tu l'as rappelé, le nombre d'étudiants actuels est quand même supérieur au nombre d'étudiants des années 80, où dans les années 80, on parlait donc de 80% d'une classe d'âge au baccalauréat. Là, on est à 95-96% parfois. Il est clair que la typologie de l'étudiant lambda a changé. Et ce qui fait que avant, même si le diplôme est très très important à l'heure actuelle, clairement, notamment vis-à-vis d'un certain nombre de recruteurs, et au-delà du diplôme, ce sont les compétences qu'on va acquérir, savoir-faire, savoir-être, et même savoir-devenir maintenant, grâce à son diplôme, qui sont très importants lors du recrutement. Le recruteur va aussi insister sur tout ce qu'on appelle maintenant les soft skills, c'est-à-dire savoir-être et savoir-devenir, c'est-à-dire comment l'individu que je souhaite recruter, que je souhaite avoir dans mon équipe, va réagir vis-à-vis de telle et telle situation. Et c'est vrai que de plus en plus, avant le diplôme, même si l'entretien se passait moyen, entre guillemets, on pouvait être recruté. Maintenant, l'entretien devient très important au-delà du diplôme. Et lors de l'entretien, tout ce qui va être compétences du style, les compétences théoriques, vont avoir moins d'importance lors de l'entretien que tout ce qu'on appelle soft skills, c'est-à-dire le savoir-être, savoir-devenir, et donc c'est-à-dire le comportement de la personne, du candidat. Et ce qui change aussi, c'est que avant, quand la structure qui recrutait disait c'est bon, vous êtes recruté, vous pouvez commencer dans 10, 15 jours ou dans un mois, dans 9 cas sur 10, pour ne pas dire plus, la personne qui était recrutée venait. Maintenant, ce qui change aussi, c'est que des candidats, parfois, sont recrutés et disent ben, « pour finir, non, je ne viens pas chez vous ». Et ça, c'est aussi nouveau au niveau des recruteurs. Et les recruteurs doivent en tenir compte, que ce soit dans l'annonce, sur ce qui est proposé en termes de conditions de travail et pas simplement que le salaire. Et donc, comme je disais, c'est nouveau. Et surtout, le sens du travail et surtout l'éthique et le sens, enfin, l'image de la structure qui va recruter. Et ça, c'est très important pour les jeunes actuels.
Alors, c'est vrai qu'en 2026, ce qui change et qui va changer encore énormément, c'est tout l'apport de l'intelligence artificielle qu'on n'imaginait pas en 1980. Et là, on ne sait pas trop ce qui nous attend.
On peut le voir de deux manières. On peut le voir comme une menace, on peut le voir comme une opportunité. Je pense que la vérité est entre les deux, j'ai envie de dire, voire même c'est plutôt une opportunité. Mais il est clair que, j'ai envie de dire, sauf pour certains métiers manuels, et même dans les métiers totalement manuels, je pense que l'IA peut être véritablement une opportunité. Je pense que l'IA nous oblige à deux choses, notamment à développer notre esprit critique. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, on peut utiliser l'IA, moi-même j'utilise l'IA, mais ce qui va sortir concrètement, un, il faut savoir ce que je demande. Je dois vraiment analyser ma demande pour faire le prompt, c'est-à-dire la question que je vais lui poser. Et deuxièmement, quand l'IA, je ne citerai pas quel moteur je peux utiliser, etc., va sortir une réponse, il faut que je sois capable de l'analyser et de se dire est-ce qu'elle est vraie ou pas. Et c'est vraiment, en fait, et on l'a vu au niveau donc, de nos enseignements, si on avait, et ce n'est pas le cas, si l'IA était interdit pour les étudiants, concrètement, ils l'utiliseraient quand même. Bon, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, c'est de se dire, par rapport à l'IA, c'est un, l'université doit apprendre aux étudiants à être capable d'utiliser l'IA de manière pertinente et correcte, et surtout de développer l'esprit critique. Ce n'est pas parce que l'IA a dit quelque chose qu'elle a raison. Sinon, là, ça peut être véritablement dangereux. C'est pas parce que je l'ai trouvé sur Internet que c'est vrai. Et ça, c'est véritablement le rôle de l'université de développer l'esprit critique et de former des citoyens avec une tête bien faite.
Voilà, donc, est-ce qu'on peut dire que les années 80, c'était quand même un peu des années d'insouciance ou pas ?
J'ai envie de dire, dans les années 80, parfois, on ne savait pas ce qu'on allait faire, mais on se disait, on trouvera toujours quelque chose. Voilà. Donc, on peut dire que c'était un peu de la souciance en disant que on arrivera toujours à faire quelque chose pour rebondir. Donc là, je suis plutôt d'accord. Dans le sens où je pense que dans les années 80, on n'avait pas une pression anxiogène qui peut parfois exister maintenant vis-à-vis de la jeunesse. Voilà. C'est-à-dire, dans les années 80, quand on était jeune, on se disait, l'avenir, même si on ne sait pas ce qu'on va faire, ben, on va le construire et puis un jour ou l'autre, on va trouver notre voie. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe.
Et puis au-delà, pour ceux qui travaillaient dans les années 80, je pense que le travail était mieux valorisé. Enfin, je veux dire, les gens avaient plus de facilité à aller en vacances ou ça, que maintenant, ça devient plus dur, la vie économique pour les personnes. Même pour ceux qui travaillent, je dis.
Tout à fait, oui. C'est sûr que la question du pouvoir d'achat est quelque chose qui s'invite, on va dire, au quotidien de chaque citoyen. Et quelque chose, à l'inverse, qui s'est développé depuis quelques dizaines d'années, qui était beaucoup moins présent dans les années 80, sauf vis-à-vis d'une minorité, c'est avoir l'esprit d'entreprendre. En même temps, c'est vrai qu'on peut se dire, on peut parler d'un climat parfois un peu anxiogène, etc. Et il y a un formidable potentiel, notamment dans cette région et dans cette université. Le nombre de jeunes qui entreprennent, qui créent leur activité, c'est pas toujours une entreprise, il y a différentes formes, etc. Mais ça, c'est formidable. Et c'est vrai qu'il y a un terreau, que ce soit avec le Pépite à l'université, que ce soit avec des autres dispositifs, BGE, etc., ou CréiNov, qui est notre incubateur. Et quelqu'un qui a une idée, qui souhaite développer son idée pour en faire une activité, à l'université, c'est possible, et dans la région, c'est possible. Dans les années 80, c'était très compliqué.
Alors, c'est vrai qu'on a vu arriver, notamment dans cette région, hein, des pépinières d'entreprises en quantité, hein, et très spécialisées parfois, hein, Euratechnologie, etc., la pleine image. Donc, on a un foisonnement d'endroits qui accueillent des entreprises plus ou moins grandes et autour d'un concept ou d'une idée générale qui rend à la fois une visibilité sur ce qui est fait dans tel endroit et puis aussi une mise en réseau au même endroit d'acteurs qui sont différents mais très complémentaires.
Tout à fait, et ça c'est vraiment la force de cette région, notamment de la métropole illoise, où concrètement on a vraiment la notion de réseau et comme tu le disais, de synergie. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans 10 endroits, on va aller dans un endroit, et là on aura les différents interlocuteurs qui seront peut-être pas dans la même pièce, j'ai envie de dire, mais concrètement, et ce sera une synergie positive qui va se mettre en place.
Voilà, avec du partage aussi, hein, du partage de compétences, de connaissances, voire même de matériel.
Tout à fait.
Voilà, donc on peut dire que pour les humains de l'an 2026, et on leur souhaite à tous nos meilleurs vœux, il y a encore beaucoup d'espoir possible. Après, il faut se mettre à la tâche.
Et de se dire, comme dans les années 80, il faut être acteur de ces projets, voilà, pas que projets professionnels ou de formation, ces projets personnels aussi de vie, etc. Et c'est un peu tout ça avec cette association qu'on souhaite faire vivre. Alors, pour rejoindre l'association, c'est très simple, il y a un site internet au cœur des années 80, sans accent, parce que sur le web, quand on met un accent, ça bug, on va dire. Donc, au cœur des années 80.fr, notre site internet, où on a un groupe Facebook. Donc, vous tapez au cœur des années 80, avec un espace entre chaque mot. Vous nous retrouvez, vous avez l'ensemble de nos activités, de nos événements et de nos partages.
Et merci Eric et très belle année 2026.
Merci à toi aussi et à tous nos auditeurs. Turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but I don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.